Bonjour, chers auditeurs, bonjour, ce mercredi 1er avril, mercredi saint. Nous allons parler du pape, notamment de ses discours, ses deux premières sorties. Il est très méditerranéen, notre pape Léon XIV, la Turquie, le Liban, Monaco et bientôt l'Algérie. Ce dont nous allons parler tout à l'heure avec l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui, je crois, arrive juste. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Et qui a quelques objections à faire au pape, figurez-vous. Voilà, nous allons en parler tout à l'heure de ce voyage papal. Peut-être pas discutable, mais en tous les cas discuté. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Bonjour.
Et nous parlerons aussi par extension, si vous le voulez bien, parce que vous êtes avant tout un diplomate. Nous parlerons aussi de la situation internationale. Ce que nous prolongerons avec Philippe de Saint-Robert, parce que Philippe de Saint-Robert est intervenu la semaine dernière, mais très tard, et avec trop peu de temps pour développer ce qu'il avait à dire. C'est un bon connaisseur du Proche-Orient. Il a enseigné, enfin, il a donné plusieurs conférences à l'université de Beyrouth, c'est pourquoi nous parlons avec lui la semaine dernière. Et là, évidemment, nous avons bien des commentaires à faire les uns et les autres, ainsi, bien entendu, que Pierre Lours. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Paul-Marie Couteau.
Qui est fidèle au poste.
Et vous aussi, vous êtes là.
Et qui connaît aussi, je suis là, figurez-vous. Et qui connaît aussi, de longue date, l'ambassadeur Driancourt. Je crois que vous vous connaissez, vous vous retrouvez tous les deux fortuitement autour de cette table. Bien, alors, bien des choses à dire. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je disais, monsieur l'ambassadeur, que... Vous avez été ambassadeur. Alors, tout le monde le sait parce que vous êtes un ambassadeur. Il y a deux ambassadeurs qu'il faut beaucoup parler d'eux.
Je vais vous
il y en a un dont je ne parle pas parce que je trouve que ses positions sont exécrables et les vôtres qui sont excellentes. Xavier Driancourt et notamment vous avez... Alors je rappelle, vous avez été ambassadeur.
Dans le point de demain, il y aura des éloges du président Sarkozy à mon égard.
À votre encontre, vous voulez dire?
Oui.
Parce que les éloges de Sarkozy, c'est plutôt des flèches du part, à mon avis. Mais enfin, si vous appelez ça un égard, ça vous regarde. Vous avez été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, ce qui est assez rare pour un ambassadeur. Oui. La première fois, je crois, de 2008 à 2010, et une deuxième fois de 2017 à 2020.
Tout à fait.
Voilà.
De 2008 à 2012, j'ai fait le quinquennat Sarkozy.
2012, d'accord. 4 ans,
ensuite,
puis 3 ans.
Et ensuite,
Mais vous avez occupé au Quai d'Orsay de nombreuses fonctions. D'abord, ce n'était pas votre première ambassade. Vous avez été, je crois, ambassadeur.
En Malaisie.
Vous avez eu très chaud. Je dis ça parce que je connais bien votre vie. Petite page publicitaire. Si, chers amis, vous voulez vous reporter à TV Liberté, vous trouverez en tapant tout simplement TVL Xavier Driancourt, une belle conversation que l'ambassadeur Driancourt m'a accordée, au cours de laquelle il raconte sa vie.
Voilà. Oui.
Alors il y a un peu beaucoup d'Algérie, mais il y a aussi de l'Australie, excusez-moi.
L'Australie,
de la Malaisie. Et puis vous avez été très longtemps en poste au ministère, au département,
Département, exactement.
Notamment, vous fûtes directeur du personnel, c'est pas exactement
directeur du personnel, directeur général de l'administration, chef de l'inspection générale.
Chef de l'inspection générale.
Je suis sans doute celui qui connaît le mieux les arrière-boutiques du Quai d'Orsay.
Oui, mais c'était quelque chose d'ailleurs, parce qu'au cours de ces fonctions... Vous avez eu la main, enfin, pas avec voix décisionnelle, sur la nomination de tous les ambassadeurs.
Oui, tout à fait.
Donc, un personnage considérable. Je ne sais pas pourquoi vous avez donné votre aval à la mission de Gérard Araud à Washington, mais je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait.
Et d'ailleurs, il n'a pas voulu quitter Washington, il a refusé de demander l'agrément pour son successeur.
Je sais, mais c'est un drôle de personnage qui ne sert pas que la France, à mon avis. Mais enfin, je ne vais pas en dire davantage. Je le connais de longue date, vous étions allés là ensemble, vous paraissez déjà exécrable. Il a outrepassé toutes ses fonctions, d'ailleurs, en disant du mal du président Trump élu en 2017.
Oui.
Il avait peut-être quelques raisons de le faire, mais enfin, il n'avait, en fonction, il n'avait pas à le faire. Bref.
Ah oui, ça lui a été reproché.
mais en plus, il était en fonction. Vous, vous ne l'êtes plus.
Oui.
Parce que quelquefois, quand je parle de vous, toujours en bien, on me dit, mais il est ambassadeur, il devrait se taire. Mais non, vous êtes en...
Ben oui, je suis...
Vous êtes en retraite.
Oui, oui.
Sans battre en retraite.
Exactement.
Pour autant.
Donc, je suis libre de mes propos.
Tellement libre de vos propos, monsieur l'ambassadeur, que vous avez publié, ou vous vous apprêtez à publier, mais je crois que j'ai eu la primeur d'un article que vous devez consacrer dans le JDD, je
oui.
crois que c'est dimanche prochain en réalité, nous anticipons,
oui.
merci pour cette primeur, un article, c'est une tribune, émettant des doutes sur l'opportunité du voyage du
oui,
pape en Algérie.
Oui, oui. C'est exact.
Voilà. Pour l'instant, je trouve que ce pape qui a été élu il y a à peu près un an, c'était
oui,
dans la foulée de
an.
Pâques, souvenons-nous, c'est Pâques 2025, assez émouvante, on a vu mourir, presque en direct on peut dire,
oui, oui.
le pape François, puis un magnifique déploiement de tout ce que le Vatican sait faire
le
en fait d'apparat et de faste, qui a touché le monde entier d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on peut dire beaucoup de mal, et on l'a dit à ce micro, certes, on peut penser des choses contrastées sur François, mais au moins il a beaucoup désarmé les antichrétiens. Parce qu'il a montré de l'Église, on peut de moins lui reconnaître ça, un visage qui n'a pas toujours plu aux catholiques, mais qui a plu aux non-catholiques. C'était
oui,
paradoxal.
Oui, c'est vrai, c'est...
Mais ça avait son efficacité, parce que ça a désarmé bien des préventions que l'on pouvait avoir contre nous. Alors sa mort l'a magnifié, d'autant que son successeur, après tout ce déploiement d'apparat, de couleurs et de sérénité de tous ces cardinaux accourus du monde entier qui ont réfléchi et qui ont élu un pape inattendu, lequel pape est apparu avec un visage d'une sérénité assez bouleversante.
Un deuxième pape du continent américain.
Un deuxième pape du continent américain, à la fois du
oui.
nord et du sud.
Oui, tout à fait.
Et ce pape a tout de suite intrigué et m'a intrigué pendant plusieurs mois. Je me suis demandé ce qu'on pouvait en penser. Mais d'abord, faut-il penser quelque chose du pape? Après tout, il nous est donné, quand on croit, par le ciel, avant tout, par la divine providence. Et acceptons-le tel qu'il est. Mais il se révèle assez précieux. Nous avons commenté à ce micro le discours le discours de Nicée, sa première sortie en Turquie, puis au Liban, puis à Monaco, c'était il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de son discours de Monaco, non. Mais sur deux points, il a frappé les esprits.
Oui, je trouve en fait que les trois premiers voyages du pape qu'il va faire ou qu'il fait ces jours-ci sont quand même un assemblage curieux. Il y a Monaco, samedi dernier, avec le faste, non pas de l'Église, mais le faste de la principauté de Monaco.
C'est un autre faste.
Exactement.
C'est plus clinquant, quand même.
un faste un peu, oui, clinquant. Et puis ensuite, il y a l'Algérie, du 13 au 15 avril. Et puis ensuite, le Cameroun. C'est-à-dire le choix des deux derniers... pays, bon, je mets à part la principauté du Vatican. Le Vatican, c'est le terme du traité avec le Vatican, du traité, je crois, de 1918, parle de l'amitié protectrice de la France vis-à-vis de la principauté, pardon.
Oui, la principauté.
L'amitié protectrice de la France. Bon, on met à part... la principauté.
Mais les pays qui est statutairement catholique.
Oui,
statutairement.
Crois
que c'est dans la constitution
oui, oui,
de Monaco aussi.
Oui, oui. Religion d'État.
Religion d'État.
Comme l'était le catholicisme avant 1789.
Et
hein.
Oui, oui.
Il
oui.
est devenu religion de la majorité des Français en 1815 dans la charte.
Oui, oui. Peut-être que vous,
18...
une des choses qu'a voulu rappeler
oui.
Léon en venant à Monaco. Mais
donc,
il a dit des choses intéressantes quand même.
Donc il y a Monaco
oui.
et puis ensuite l'Algérie et le Cameroun. L'Algérie, on va en parler, je suis quand même très réservé ou dubitatif sur cette visite. Et puis ensuite le Cameroun avec un président Biya qui est président depuis quasiment l'indépendance du Cameroun.
Il vient d'être réélu dans des conditions absolument
stupéfiantes. Oui, oui. Donc c'est un choix curieux. Donc, est-ce que ça
on
témoigne...
On ne peut pas dire qu'il glorifie la démocratie
oui,
dans les deux cas.
Non, mais on peut se demander si, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière comme intention ou est-ce qu'il y a simplement une certaine forme de méconnaissance, j'allais dire, du continent africain, du monde maghrébin, islamique, musulman. Il connaît le monde américain, le nord et le sud, comme vous l'avez dit, mais je trouve que le choix de ces deux pays africains est curieux.
Oui, malgré tout, vous savez, la diplomatie vaticane,
oui,
qui est bien antérieure, est assez rompue aux arcanes de la diplomatie la plus ancienne, connaît l'Afrique.
Oui, oui.
Je crois qu'il y a un autre voyage ensuite qui est annoncé en filigrane, à Barcelone.
Où cela ?
À Barcelone. Il irait ensuite à Barcelone,
ah oui,
un peu
Barcelone.
Plus tard dans l'année.
Ah oui.
Voilà.
Mais là, il retrouve le côté hispano.
Voilà. Son côté hispano qu'il a un peu, puisqu'il est en partie péruvien.
Enfin, oui.
Écoutez, quoi qu'il en soit, je voudrais demander à Pierre Lourd ce qu'il pense des premiers pas du pape, puisqu'il a un an, on peut commencer à apercevoir une ligne directrice, non ?
Bah, écoutez, il y a une question qu'on peut se poser sur une de ses dernières décisions. C'est la nomination à la tête de la Banque du Vatican d'un ancien DG de chez Rothschild. C'est quand même assez étonnant. Si on se rappelle que Benoît XVI a eu quand même beaucoup de difficultés avec la banque.
Oui.
Et son départ a été vraisemblablement forcé
par
les puissances financières mondiales. Donc, ça, c'est une question aussi. C'est la question que disait Xavier Triancourt concernant effectivement l'Algérie. On peut effectivement se demander si la Kabylie, par exemple, n'est pas une difficulté pour ce genre de voyage.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur ?
Oui, je trouve que le choix du voyage en Algérie est quand même étonnant. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça va donner une légitimité au président Tebboune qui va pouvoir dire, vous voyez, l'Algérie est un pays tolérant, l'islam de l'ouverture, nous sommes un peuple de paix, un pays pacifique. D'ailleurs, le pape commence ses voyages africains par l'Algérie, donc c'est très bien joué pour l'Algérie. Et je trouve que le pape, c'est la première raison de mon interrogation, le pape donne ainsi une très grande légitimité, une très grande visibilité à l'Algérie et surtout à son régime, à Tebboune et aux militaires algériens. La deuxième raison, c'est que ce voyage a été organisé ou suggéré par le cardinal d'Alger, Mgr Vesco, qui, lui, est tombé un peu dans le piège, si je puis dire. Et comme j'écrivais dans cet article, je pense que ses qualités religieuses, que je connais, puisque je l'ai bien connu quand il était évêque d'Oran.
Il est évêque de longue date.
Il était évêque d'Oran.
Avant Alger.
Oui. Et ses qualités religieuses sont supérieures à ses qualités politiques. Là, il contribue à donner, encore une fois, une légitimité très forte à ce pouvoir algérien, alors que Mgr Vesco a été très tiède, réservé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la libération de Boualem Sansal, par exemple. Donc là, il fait ami-ami avec le pouvoir algérien. Bon, il est vrai qu'il a pris la nationalité algérienne, comme d'ailleurs quasiment tous ses prédécesseurs à Alger.
C'est une obligation auquel...
Non, c'est pas une obligation.
Ils se soumettent tous,
c'est pas une obligation du tout, mais tous ses prédécesseurs l'avaient fait et lui emboîte le pas. Et puis la troisième raison, vous l'avez mentionné, c'est la question des chrétiens en Algérie et notamment des chrétiens en Kabylie. Parce que les chrétiens sont quand même persécutés en Algérie.
Ça, c'est la grande question. Est-ce que l'on peut facilement aller à la messe à Alger, par exemple ?
À Alger, il y a très peu de messes.
Mais est-ce qu'il y a une église ?
Oui, il y a la cathédrale d'Alger, qui a été construite, du reste, en 1960, c'est-à-dire à une époque où on pensait que l'Algérie resterait française. On a construit une cathédrale en 1960.
Bah oui,
donc,
c'était...
on pensait vraiment que l'Algérie resterait française.
Bah, on pouvait quand même construire une cathédrale en pensant que la France ne serait pas la puissance.
On avait peut-être, peut-être d'autres priorités.
Il y a quand même des cathédrales
on peut aller à la messe à Alger, mais la messe et les catholiques en Algérie, c'est les catholiques des catacombes. Il y a, moi, toutes les messes où je suis allé, les vendredis, parce que le vendredi, c'est le dimanche, vous avez deux catégories de personnes.
Ça va jusque-là, on va à la messe du dimanche, le vendredi.
On y va le vendredi.
C'est le jour, qui est le jour sacré
du C'est le jour du Seigneur,
oui, c'est déjà une concession.
Quel qu'il soit.
C'est déjà une concession.
Donc, mais vous avez deux catégories de personnes. Vous avez des expatriés, bon chic, bon genre.
Et des Africains noirs.
Et des Africains sans papier, ou qui viennent, qui sont en situation irrégulière en général. Et...
Pourquoi ? Parce que le gouvernement algérien ne régularise pas beaucoup
non,
de migrants.
Non, non, il les expulse, il les reconduit dans le désert. Reconduit dans le désert. Et que ce soit à Alger, à Sidi Bel Abbès, dans l'ermitage de Charles de Foucault, à Tamanrasset, là aussi dans l'ermitage du père de Foucault, à Sétif, à Gardaïa, partout, c'était la même population, il y avait 20 personnes. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment une religion qui est dynamique, acceptée, encouragée par le régime.
Et dans d'autres villes d'Algérie.
L'apostasie est interdite, condamnée, et les chrétiens de Kabylie sont quand même persécutés. Il y a eu 47 églises qui ont été fermées l'année dernière, il y a eu les incendies.
47 églises 47 fermées églises dans la seule année 2025
En Kabylie.
47
en Parce
une seule
année Parce que les Kabyles sont, pour certains d'entre eux... chrétiens ou catholiques, évangéliques en réalité. Il y a beaucoup d'évangéliques.
Ils se souviennent, c'est peut-être pour raviver ces souvenirs.
Et c'est aussi un moyen de marquer leur opposition par rapport à l'Algérie musulmane.
Ils se souviennent qu'ils ont été, pour la plupart, convertis par le fer et par le feu.
Oui, oui, oui.
Et qu'auparavant, ils étaient chrétiens.
Oui, oui,
c'est
oui.
C'est peut-être ce souvenir que vient raviver le pape.
Mais 47 églises, donc, alors je comprends bien que le motif officiel du voyage papal en Algérie, c'est d'aller sur les traces de saint Augustin.
Ben oui.
À Soukara, c'est Annaba. Et je crois qu'il va dire une messe à Annaba, à la cathédrale d'Hippone. Mais voilà, je trouve que derrière tout cela, il y a quand même un très grand rideau. Un peu sombre.
D'ambiguïté.
Et je trouve que, je ne sais pas si, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si le pape américain, issu du continent américain et qui a passé sa vie en Amérique latine, est conscient de cette face du christianisme en Algérie et dans beaucoup de pays musulmans du continent africain.
Mais alors, qui va...
Donc c'est ça qui m'interpelle un petit peu. Le fait que ça soit le premier voyage sur le continent africain, le fait qu'il va donner une légitimité très forte au régime algérien, et le fait qu'il contourne un peu la question des chrétiens en Kabylie. Il serait allé à Tizi Ouzou, par exemple.
Mais il ne peut pas aller à Tizi Ouzou sans aller à... Marquer son prédécesseur était allé à Ajaccio sans aller à Paris.
Il peut, sur la route entre Alger et Annaba, il aurait pu aller à Tizi Ouzou.
Qui est plus au sud,
qui est qui est juste sur la route en Kabylie. Et là, il aurait montré son intérêt pour les chrétiens de Kabylie.
Ça aurait été un peu subversif.
Ça aurait été un peu subversif, mais il y avait derrière ça un message politique.
Un sens.
Tandis que là, encore une fois, Tebboune va utiliser cette visite pour dire, vous voyez, comme l'Algérie, c'est le pays de la tolérance.
Ben justement, ce dont nous parlons justement à l'occasion de ce voyage, et dont il sera question souvent... Pour ceux qui l'ont suivi, qui le suivront, non seulement en France, mais dans toute la chrétienté, comme on disait jadis, la question de la tolérance ou de l'intolérance religieuse sera posée au grand jour. C'est peut-être une...
Ben oui, mais est-ce qu'il va voir cette question ?
Qui va assister à ces messes, alors si...
Parce qu'encore une fois, je trouve qu'on a un peu maquillé cette visite, et que Mgr Vesco, le cardinal d'Alger... je trouve, n'est pas suffisamment clair là-dessus.
Qui va assister à ces messes ?
Oh, il va y avoir...
Parce que...
Comme pour la béatification des moines de Tibérine, il y avait tous les généraux
là
algériens...
Vous y étiez, oui.
Il y avait tous les généraux... décembre 2018, oui. Il y avait tous les généraux algériens qui assistaient à la messe, qui s'ennuyaient mortellement et qui trouvaient que c'était très long. Et puis, il y avait des gens qui étaient venus de France ou d'Europe
pour honorer ces moines de
la béatification. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient extérieurs à l'Algérie.
Mais ça fait du monde, ça?
Ça remplissait, oui. Et puis, s'il n'y avait pas assez de monde, on mettait des militaires qu'on déguisait en civil. Non, mais il y avait du monde. Il y avait du monde.
Écoutez, pour être très très franc, j'ai peine à être catégorique sur le sujet. Vous interpellez beaucoup. Mais je me dis qu'il y a peut-être des raisons secrètes.
Oui.
Insondables. Difficiles à percevoir.
Je pense.
Parce qu'il a bien quelque chose derrière la tête, quand même. C'est pas une voyage.
Mais je ne sais pas.
À la dictature.
Moi, j'ai tendance
algérienne.
À penser qu'il s'est fait embobiner, si je puis dire.
Mais par qui? Par Vesco.
Par le pouvoir algérien et Vesco, oui.
Oui,
c'est peut-être dur en disant cela.
On l'a dit pour Monaco, qui était aussi un voyage assez incongru, parce que Monaco est à la fois un tout petit État. Et en plus, bien que le catholicisme soit la religion d'État et que le prince de Monaco s'est signalé en persistant à refuser l'avortement, assez rare pour être souligné, attitude très chrétienne et valeureuse, mais on ne voyait pas pourquoi le pape allait dans ce temple de la richesse, et d'une richesse que, et c'est justement un point important qui le distingue,
visible,
ostensible même, d'autres religions, hein, pour les protestants, pour les juifs, la richesse nous rapproche du Seigneur. Mais on ne peut pas dire que ce soit la même chose pour les catholiques, au contraire. Vous connaissez la parabole du char et du chameau. De chat de l'aiguille et du chameau. Il est difficile de gagner le ciel quand on est riche, aussi difficile que pour un chameau de passer dans le chat d'une église. Oui. Bon, d'une épingle, d'une aiguille. Mais finalement, il a dit des choses sur la richesse assez bouleversantes, on ne l'a pas tellement écouté. Sur l'utilisation de la richesse, c'est pas sans importance dire... aux puissances financières, votre puissance n'est bonne que si elle sert le bien commun.
Oui. Oui, mais alors...
C'est bien rappelé.
Comment vous expliquez cette nomination de l'ancien DG de la Banque Rothschild à la tête de la Banque Vaticane?
Vous
comprenez, il y a, de toute façon, dans la politique
vaticane... Les finances du Vatican, ça a toujours été assez rock'n'roll. Hein.
Mais il y a, de toute façon, je crois, dans la politique vaticane, un certain jésuitisme permanent. Même s'il est augustinien, notre pape, là, je crois que les jésuites ne sont jamais très loin. Et je me demande si, en fait, il ne met pas en partie ses pas dans ceux de François en allant dans un pays d'immigration.
Oui.
Vous voyez ?
Oui.
Parce que cet homme est obligé, évidemment, de tenir compte de celui qui l'a fait pape, d'une certaine façon, c'est-à-dire François. Parce que en fait le conclave était dans la main de François. Il avait nommé les deux tiers, même plus des deux tiers des membres du conclave.
Et Pierre, on a l'impression que vous n'avez pas tellement envie de pape du tout, parce qu'il défile et ils n'ont jamais grâce à vos yeux. Donc on supprime la papauté.
Non, vous êtes de mauvaise foi, si je puis me permettre. Je pense que il est obligé, si vous voulez, de donner des gages aussi à ce côté, disons, immigrationniste, à cet héritage de François. Et est-ce qu'en allant dans un pays qui est quand même un pays d'immigration, enfin d'émigration plutôt, est-ce qu'il ne fait pas ce geste? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que c'est une interprétation qui est tout à fait plausible, c'est-à-dire une espèce de reconnaissance morale ou spirituelle vis-à-vis de son prédécesseur en allant à Alger, en Algérie, dans un pays d'immigration. Et ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas l'Égypte.
Ce n'est pas le Liban, ce n'est pas la Tunisie, pardon.
Ce n'est pas la Tunisie. Bon, enfin, la Tunisie, on peut la mettre un petit peu à part, quoi. C'est par rapport aux deux grands pays que sont le Maroc et l'Algérie. Ce n'est pas la Guinée qui est un des principaux pays d'émigration ou la Côte d'Ivoire, également un pays d'émigration.
Le Cameroun l'est aussi.
Le Cameroun, oui.
Et l'Algérie,
c'est l'Algérie, c'est un pays qui instrumentalise l'immigration en plus.
Oui. Alors ça, c'est un, c'est un.
Et qui se sert de cette arme, on le voit vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Espagne, et qui encourage le trop plein de jeunes à émigrer vers l'Europe.
Ça, c'est un des thèmes fréquents chez vous. Je cite au moins le dernier de vos livres qui s'appelle « L'énigme algérienne » oui. aux éditions de l'Observatoire. Et puis, il y en avait encore un autre un peu avant.
Oui, non, duquel... c'est le premier, « L'énigme algérienne ».
L'énigme algérienne, oui. C'est celui...
Le deuxième, c'est « Le double aveuglement ».
Ah oui, celui de 2025.
Oui, oui, sur Gualem Sansal. Oui.
Le double aveuglement étant, rappelez-le-nous, à la fois l'aveuglement de la France...
L'aveuglement intérieur et l'aveuglement vis-à-vis de l'Algérie, l'aveuglement diplomatique.
Voilà. Est-ce que c'est un autre aveuglement pour vous alors,
je n'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'il y a une certaine forme de naïveté ou de complaisance, comme vous le disiez tout à l'heure, vis-à-vis de... ou de reconnaissance vis-à-vis du conclave et du pape François et de l'Église...
L'église la complaisance, africaine. C'est le mot que vous utilisez aussi beaucoup pour qualifier le regard général la politique générale.
Oui, oui,
si tant est qu'il y ait une politique.
Oui.
Mais enfin, il y a une constante qui est un aveuglement et une timidité, voire une soumission aux oukases.
Une bienveillance.
Une bienveillance, qui s'explique parce qu'on a toujours refusé de couper.
Oui.
C'était trop grave
et en plus,
de couper
je pense
le cordon ombilical.
En Algérie, ce sera le lieu idéal. Pour les Algériens, comme pour le pape ou comme pour l'Église, pour faire la leçon à l'Europe sur la question migratoire, notamment. Et donc, on va retrouver un peu toute la rhétorique du précédent pape François à Marseille, lorsqu'il était venu à Marseille. Donc voilà, on va avoir l'espèce de culpabilisation de l'homme blanc.
D'autant que c'est à peu près la date du voyage en Algérie marquera la date de son avènement, la première anniversaire de son avènement en plus.
Oui.
C'est en effet, ça corrobore la thèse de la continuité sur le sujet de l'immigration avec François.
Et puis l'héritage de Saint-Augustin en Algérie, il a été mis à la poubelle par les musulmans. Hein. Il n'y a que à Annaba, donc Hippone, Beaune ensuite, où il y a la basilique Saint-Augustin. Voilà, comme seul témoignage de Saint-Augustin, mais Soukaras et Mador, où Saint-Augustin est né, il n'y a rien. Il y a des ruines en ruines.
Et c'est tout.
Et il n'y a rien, il n'y a même pas le rappel, une plaque.
Pas de plaque.
Le rappel que...
Pas de plaque.
Non, il n'y a rien.
Oui, alors c'est un drôle dommage, parce qu'il aurait pu exiger
donc
d'abord...
Donc l'héritage de Saint-Augustin, encore une fois, il n'existe pas en Algérie. Mais on va avoir dans le discours l'Algérie héritière de Saint-Augustin.
Oui, pour la parade.
Donc je trouve voilà, tout ça est un petit peu...
Vous m'aviez dit, monsieur l'ambassadeur, à ma grande stupéfaction, qu'au cours de vos ambassades, il vous était très difficile, surtout la seconde, de quitter Alger. Il fallait vous demander une autorisation.
Il fallait une autorisation,
qui ne venait
pas toujours
et qui vous laissait un peu prisonnier d'Alger.
Oui. Vous avez pu voyager. Et je suis allé à Soukaras, donc Mador, où est né Saint-Augustin, mais avec une escorte algérienne qui me suivait.
Policière.
Oui.
Et en Kabylie, bien entendu, vous avez
en
pu
Kabylie,
aller aussi.
Bien sûr. Encore plus, je dirais, en Kabylie.
Puisque le pouvoir se méfie de la Kabylie. Est-ce que, véritablement, je cherche des raisons, moi. Il y a une amorce de regain spirituel catholique en Kabylie, chrétien.
Une amorce de regain, je ne dirais pas non. Mais il est vrai que... en prenant le sujet à l'envers, que la majorité des chrétiens algériens sont kabyles.
Oui.
C'est une autre façon de...
D'une autre manière, oui. Mais enfin, ils sont si peu nombreux que ça ne veut pas dire grand-chose.
Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'amorce de... Parce que la Kabylie a quand même été islamisée par le pouvoir algérien.
Et oui.
Les kabyles qui sont... chrétiens ou agnostiques, ou en tout cas non musulmans, ils sont en France.
Et oui. Ils font savoir d'ailleurs qu'ils sont,
ils sont en France.
En partie pour être, pour redevenir, parce que oui. Beaucoup se reconvertissent.
Moi, j'ai vu à la cour du droit d'asile où j'étais juge,
en France.
J'ai vu des demandes de réfugiés algériens, kabyles, qui demandaient l'asile en France parce que, expliquait-il, ils étaient chrétiens et persécutés en Algérie.
Et ça marche?
Pas toujours.
Est-ce que vous pourriez nous donner... les quelques lignes fortes de votre expérience justement dans cette cour du droit d'asile. Qu'est-ce que vous y êtes encore d'ailleurs ?
Non, je n'y suis plus. Non, j'ai fait un mandat de 3 ans.
Et alors, quelles ont été pour vous les grandes conclusions de cette expérience ?
Écoutez, c'est quand même la plus grande usine à faire des sans-papiers. Pourquoi ? Parce que
oui, on refuse le droit d'asile, mais il reste quand même, quoi. En gros, c'est
oui,
ça.
Oui, non, mais il y a un écosystème, je dirais, dont les acteurs sont les organisations de passeurs, parce qu'il ne faut pas croire que les passeurs, ce sont des gens qui ont une petite barque et qui font la traversée de la Méditerranée.
Ce sont des mafias, en somme.
C'est une mafia bien organisée.
Une ou plusieurs mafias.
Il y a, comme deuxième acteur, il y a les avocats, parce que vous avez beaucoup d'avocats qui se sont spécialisés dans ces questions-là et qui, soit par idéologie, soit par intérêt financier...
Et qui les rémunère, justement ?
C'est nous. C'est bien. On les rémunère à peu près 950 euros par dossier.
950 euros par dossier.
Oui, par dossier, ou 980.
Pour instruire contre le bien public.
Pour instruire contre, exactement.
Le bien commun, enfin.
Et donc, il y en a qui sont spécialisés sur les Bangladais, d'autres sur les Sri Lankais, d'autres sur les Algériens, d'autres, bon. Donc, soit par intérêt financier, soit par idéologie, les avocats sont spécialisés là-dedans. Vous avez ensuite, comme autre acteur, vous avez toutes les associations, les ONG... France Terre d'Asile, la CIMADE, et là on voit aussi le rapport avec le pouvoir politique. Madame Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile, la directrice de cabinet de monsieur Grégoire et la directrice de France Terre d'Asile. Donc il y a voilà.
Monsieur Grégoire, le nouveau maire de Paris,
oui.
Elle est en même temps directrice de France Terre d'Asile.
Elle était directrice de France Terre d'Asile. Donc il y a une espèce d'écosystème de l'asile. Et la deuxième raison, vous l'avez dit, c'est que là-dessus, il y a à peu près 150 000 demandeurs d'asile par an en France. Et il y a 40% environ de gens qui reçoivent le titre de réfugié politique. Et les autres, les 60%, ils sont déboutés, ils font l'objet d'OQTF, mais ils restent en France. Donc vous avez un système où vous avez... Je dirais, la première classe, ce sont ceux qui ont le droit d'asile au titre de la Convention de Genève. Ils ont un titre de séjour de 10 ans, une allocation de 480 euros, je ne sais pas combien.
Par mois.
Bon. Vous avez ensuite ceux qui ont, parce que nos juges en France ont l'imagination fertile, et on a trouvé dans les années 70... que la Convention de Genève n'était pas assez protectrice, parce qu'elle définit les causes pour lesquelles vous pouvez demander l'asile dans un pays occidental. Et c'était essentiellement, après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs qui avaient été persécutés en Allemagne, et puis les réfugiés politiques d'Europe de l'Est qui fuyaient le régime politique. Et comme nos juges ont l'imagination fertile, on a inventé, pour l'Algérie d'ailleurs, un système qui s'appelle l'asile territorial et qu'ensuite on a vendu à l'Europe, qui est la protection subsidiaire et qui est extrêmement large. L'asile, c'est si vous êtes persécuté par votre pays, par votre gouvernement. La protection subsidiaire, c'est si vous êtes persécuté ou si vous risquez de subir un traitement inhumain ou dégradant. Vous sortez d'ici et vous vous faites agresser sur le boulevard Murat. Vous subissez un traitement inhumain et dégradant et vous êtes fondé à demander l'asile et on est fondé à vous accorder l'asile
en
si
Algérie,
vous étiez étranger.
L'asile en Algérie.
Et donc voilà, Il y a tout un écosystème.
Vous disiez sur TVL.
Et vous avez donc la classe éco, si je puis dire, qui sont les déboutés, mais qui restent en France.
Qui restent en France, c'est ça. C'est pour,
qui vivent au noir et qui...
C'est une machine à fabriquer des
sans-papiers. Et qui attendent un certain délai pour représenter à nouveau un dossier.
Mais c'est même une machine à fabriquer des sans-papiers avec des papiers. Parce que vous me disiez, je renvoie notre conversation sur TV Liberté, que les consulats d'Algérie en nombre très grand, démesurément grand, je crois qu'il y en a 20 ou 21 ou 22.
Il y a 20 consulats.
20. On en accepte beaucoup trop, à mon avis, alors qu'il y a deux consulats de France en Algérie.
On a trois consulats en Algérie.
En Algérie, bien. Il y a le déséquilibre, là encore, c'est le déséquilibre permanent.
Ils en avaient 18, on leur en a accordé deux supplémentaires.
Grâce à M. Darmanin, peut-être.
Oui, voilà, tout à fait.
Moussa.
Comme tout va bien avec l'Algérie...
Moussa, parce que le président Tebboune appelle Darmanin Moussa,
tout à fait.
Pour montrer sa compatriote.
On leur en a accordé deux supplémentaires.
Il en a donné deux autres. Et alors, ces consulats, donc, disais-je, c'est pour ça que j'en parle, accordent une protection consulaire aux sans-papiers au sens très large.
Tout
ça
à
va
fait.
Jusqu'à leur donner des papiers, quoi ils n'ont absolument pas droit.
Oui, parce que, en fait... Bouteflika ne s'intéressait pas à la communauté algérienne en France, c'était secondaire cette question pour lui. Alors que Tebboune, son modèle, c'est Erdogan.
C'est la Turquie.
Et c'est
l'instrumentalisation les Turcs en Allemagne,
de la communauté algérienne ou franco-algérienne en France pour peser dans le jeu politique. Et donc il a demandé effectivement au consulat d'Algérie de délivrer des papiers, ce qui leur permet, grâce à l'accord franco-algérien de 1968, de se faufiler dans le magma juridique.
Bien. Alors, écoutez, les bras vous en tombent. Je crois que les relations entre la France et l'Algérie sont ce que vous avez décrit à plusieurs reprises, soit dans la presse, soit dans cette fameuse émission sur laquelle je reviens. Il n'y a pas d'évolution depuis un an, en réalité. Il y a eu des réchauffements, il y a eu la claque que nous avons reçue lors de la libération de Boualem Sansal, notre ami commun, on peut dire, parce qu'il avait aussi
accordé deux conversations
à TVL que j'ai menées avec lui. Et puis, vous étiez un de ses très proches,
proches. Je l'ai vu encore le week-end dernier.
Il va bien, je crois qu'il est très heureux d'être académicien.
Oui. Il travaille son nouveau livre.
Il n'a pas cessé de travailler son prochain livre, de toute façon. Et alors, quand il a été libéré, c'est par le biais de l'Allemagne, claque à la France. Après, on a cru qu'on se rabibochait ou qu'on se réchauffait.
M. Nunez est allé à Alger.
Et puis, M. Nunez est allé en Alger.
Et puis, il ne
s'est rien passé. Oui.
Non.
Statu quo.
Alors, on peut espérer que le journaliste Christophe Glaize soit libéré à l'occasion de la visite du pape.
Ah. Alors, peut-être qu'il y aura une surprise dans cette visite.
Il peut y avoir une surprise.
La Providence. Pour commencer, puisque nous sommes mercredi saint, nous allons entendre un morceau de musique merveilleux pour moi, que j'ai toujours beaucoup aimé, mais qui s'appelle justement la première leçon de ténèbres pour le mercredi saint de François Couperin. Interprété par un groupe vocal que je ne connaissais pas, qui m'a l'air d'être belge, Cantate Vocale, je crois, et l'incontournable, merveilleux René Jacobs, qui fête cette année son 80e anniversaire.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Couper, c'est toujours la question, le problème de cette heure toujours trop courte, nous venons d'entendre en ce mercredi saint, chers amis, la première leçon de ténèbres de François Couperin. Écoutez-les, c'est toute une atmosphère qui nous met dans l'atmosphère de la semaine sainte. C'est aujourd'hui un grand jour, ce mercredi saint, enfin nous commémorons cette partie de la semaine, ce jour de la semaine où, après avoir remporté, on peut dire, les joutes oratoires avec les maîtres du temple, le mardi, aujourd'hui, c'est le terrible jour de la trahison de Judas. Et c'est le début de la descente, j'allais dire de la descente aux enfers, de la descente au tombeau et de la résurrection.
Ouais.
Le jeudi saint étant le jour de la dernière scène, où Jésus s'adresse à Judas, et le lendemain, la passion, le Golgotha, la crucifixion. Nous commémorons ça chaque année. Nous ne pouvons pas le commémorer comme chaque année, en Terre Sainte en tous les cas, puisque le gouvernement israélien a interdit les lieux saints, ce qui est la première fois de son histoire. Déjà, dimanche de Rameau... Les églises de Jérusalem ont été fermées sur ordre d'un pouvoir qui finalement n'a pas nécessairement le droit de le faire, d'un gouvernement israélien qui outrepasse ses droits là comme ailleurs. Est-ce que je peux vous interroger, monsieur l'ambassadeur, sur la situation au Proche-Orient? Nous allons en parler tout de suite avec Philippe de Saint-Robert ensuite. Je vous en prie.
Oui.
Dites un mot, dites votre mot, pardon.
Non, bon, ça fait un mois maintenant que cette guerre, cette nouvelle guerre au Proche-Orient a commencé. C'est pas une guerre comme on l'a connue ou comme on les a connues depuis 1948 entre Israël et les puissances arabes environnantes. C'est une guerre entre Israël, les États-Unis d'un côté, les monarchies du Golfe en arrière de la main, si je puis dire, et l'Iran. Et donc, c'est une configuration complètement différente. Mais moi, personnellement, ce que je redoute, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, cette impression, ce que je redoute, c'est que si cette guerre dure, et au bout d'un mois...
Ça commence à durer.
Si cette guerre dure... Je crains l'embrasement des populations musulmanes.
La rue.
De la rue arabe, comme on dit, contre l'Occident,
tout.
Contre Israël,
nos ambassades,
contre les États-Unis, contre
nos
l'Europe.
Nos instituts de coopération.
Et donc, avec des répercussions dans nos pays.
Vous avez
pays,
tellement raison
France,
que dimanche dernier, un de mes amis qui est...
C'est un peu ma crainte que si ça dure, que la rue arabe se révolte contre l'inaction des monarchies du Golfe, contre Israël, contre les frappes américaines. Et plus on verra d'images de Téhéran à feu et à sang, plus il y aura cette mobilisation.
Vous avez tellement raison qu'un de mes amis qui est au Caire me disait dimanche dernier, mais il est en poste en coopération à l'IFAO au Caire,
oui.
Il a dit, mais on nous a demandé à nous tenir près de rentrer parce que si la rue...
Oui.
Kérod s'embrase, ça peut être terrible, y compris contre toute une institution française. Mais enfin, la France fait entendre une petite voix différente, malgré tout, un début. Philippe de Saint-Robert, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Bon, alors, nous vous donnons la parole un peu tard, mais il faudrait que nous institutionnalisons ces petits rendez-vous. Vous nous avez déjà donné votre avis mercredi dernier sur la situation au Proche-Orient. Il y a un fait nouveau, c'est que la France... donne un signe d'indépendance en refusant le survol de son espace aérien, enfin l'utilisation de son espace aérien, à une partie, enfin la partie guerrière de l'aviation militaire américaine. Celle qui est offensive et pas défensive. Enfin.
On fait ce qu'on peut. Hein. on fait ce qu'on peut.
Mais alors, vous qui avez de temps en temps eu des... Bon, comment peut-on dire, au début de son mandat, des sourires pour M. Macron, vous n'étiez pas alarmé de but en blanc. Il y a peut-être une raison de lui dresser enfin quelques couronnes, j'exagère?
Je ne sais pas. Écoutez, il est aussi imprévisible que son ami Trump. Hein. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup changé. Rappelez-vous, dans l'affaire du conflit entre la Russie et l'Ukraine, lorsqu'il disait qu'il ne fallait pas injurier la Russie, et puis qu'ensuite il s'est retourné contre elle. Donc, vous voyez, il est quand même un peu changeant. Mmh. Il n'a pas de ligne très, très sûre, peut-être parce qu'il n'a pas une connaissance suffisante de l'histoire. Voilà.
De même sur l'Algérie, dit Xavier Driancourt, qui connaît le sujet, parce qu'il a été à la fois très chaud et très froid. Et vous avez vu ce passage.
Le problème de l'Algérie est simple. Il a tout gâché le jour où, avant même son élection, il a été là-bas en disant que notre présence en Algérie avait été un crime contre l'humanité. Ce jour-là, il s'est mis entièrement entre les mains du pouvoir algérien et c'était terminé.
Bravo. Ça, je dois dire que je ne sais pas ceux qui regardent notre émission sur YouTube l'aperçoivent, mais je vous le dis, Philippe de Saint-Robert, je ne sais pas si vous êtes sur YouTube, mais l'ambassadeur Xavier Driancourt opine du chef et vous approuve.
Oui.
Alors, il y a tout de même un point, il n'y a pas simplement cette interdiction du survol, Saint-Robert, il y a aussi ce qui se passe autour de la finule. J'ai l'impression que le gouvernement israélien, dans son ire ou son délire, en vient à provoquer des éléments français. Il faut dire que c'est le plus grand contingent de la finule dont nous parlions avec Constantini la semaine dernière. Je ne suis pas mécontent quand on parle du Liban. On en a déjà parlé les deux dernières semaines, mais pour moi, c'est absolument crucial. Je crois, je continue à penser qu'à partir de la finule dont les Américains et les Israéliens demandent le retrait immédiat, et notre ambassadeur, enfin l'ambassadeur d'Israël l'a dit hier à Paris, mais de quoi je me mêle, en réalité, ce n'est pas de lui que ça dépend de l'ONU. Bon, la finule, il faudrait poursuivre son mandat qui devrait s'arrêter en janvier 2027. Et il faudrait peut-être le renforcer pour faire ce fameux tampon qu'Israël se charge de faire lui-même entre le Hezbollah, entre Beyrouth et Israël. Or...
Oui, mais l'ONU n'a plus aucun moyen. Comment voulez-vous que l'ONU renforce la finule, étant donné qu'elle n'a plus aucun moyen, qu'elle n'est plus soutenue par personne?
C'est pas possible. Si, il y a plusieurs États qui peuvent la soutenir. Je sais qu'il y a l'obstacle israélo-états-unien, évidemment. Mais vous savez, on a déjà vu des missions de l'ONU dépasser leur mission. On a vu ça dans l'affaire de Bosnie, d'ailleurs. Est-ce que ça peut tourner au vinaigre, d'après vous, ces escarmouches entre l'armée israélienne et la finule, puisqu'il y a déjà eu trois morts ces derniers jours, des membres de la finule assassinés parce qu'ils sont désarmés, en principe, par l'armée israélienne.
Je sais bien. Et puis, les soldats de la finule peuvent à peine se défendre, voilà. Donc voilà, c'est ça le problème. Quant à s'en prendre aux soldats français de la finule, je crois quand même qu'ils y regarderont à deux fois. Ils vont faire de la provocation.
Mais ils l'ont fait avant-hier, mardi.
Oui, je sais. Mais ça peut toujours tourner mal. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne pense tout de même pas qu'on va envoyer nos troupes au Liban. Peut-être le général de Gaulle l'aurait fait, mais malheureusement, il n'est plus de ce monde.
Notre porte-avions au large de Beyrouth, ça aurait de la gueule pour empêcher Israël. Parce qu'il y a tout de même des témoignages bizarres. Il y a sur plusieurs villages, notamment un village chrétien détruit, y compris son église détruite par l'armée israélienne, qui s'appelle Taïbé. Bon. Là-dessus, sur les ruines, flotte le drapeau israélien. Je l'ai vu, de mes yeux vus, en tous les cas. Sur le fil Twitter.
Donc c'est
de l'annexion maintenant. Ils annexent le Liban.
Mais ils vont tout annexer. Et voilà, c'est comme ça.
Jusqu'à Beyrouth et Tripoli, du Liban.
Bien sûr. Bon, ils ne vont pas annexer Beyrouth, mais ils vont annexer le sud Liban. Ils vont annexer le sud Liban, comme ils ont annexé le Golan, comme ils ont annexé la Jérusalem. Qu'est-ce que vous voulez ici? Personne ne les arrête. Tant qu'ils sont protégés par les États-Unis, ils se permettront tout, mais ça finira mal.
Qui disait ça finira dans le sang? C'est Couve de Murville, non? Je crois.
Oh, il m'avait dit ça il y a longtemps.
C'est à vous que Couve de Murville a dit tout cela finira dans le sang?
Oui.
Ah oui.
Oui, oui, absolument, absolument. Il y a très très longtemps.
Vous pouvez dater, c'est intéressant comme citation, parce que je ne savais pas la provenance, je ne savais pas que c'était vous qui l'avez recueilli. En quelles circonstances, Claude de Murville, vous a-t-il dit ça, fille de Saint-Robert ?
Il m'a dit tout ça finira dans le personne n'a idée. Enfin, je ne sais plus la phrase exacte, mais je l'ai notée, vous pourrez vous la retrouver.
Ah oui.
Il m'avait dit ça il y a très longtemps.
Je voudrais en faire un grand usage. Mais donnez-moi les références, la date, si vous les avez, Saint-Robert, ça m'intéresse beaucoup.
Je ne les ai pas sous les yeux pour l'instant. Hein.
Bon,
voilà. Vous la retrouverez.
Je vais vous tarabuster jusqu'à ce que vous la retrouviez. Mais les relations se tendent beaucoup avec Israël, parce que je pense que on ne va pas en rester là. Il y a une espèce d'escalade. Israël a dit, je crois ce matin, que le gouvernement israélien, que la France se comportait comme un pays ennemi. C'est assez fort.
Oh, vous savez, mais qui attache de l'importance à ce qu'ils disent ?
Est-ce qu'il dit qui ?
Quoi ?
À ce que dit le gouvernement israélien ?
Oui, qui attache de l'importance ? C'est n'importe quoi, écoutez. Pas attacher d'importance à des propos purement provocateurs. Ça n'a aucun intérêt. Mais le problème, c'est qu'ils vont finir par se brouiller avec les Américains. Parce que ça, Trump, à un moment donné, il en aura peut-être marre. Parce qu'ils ont manipulé Trump, mais quand même, il a beau être faible. Le tigre de papier, c'est Trump dans tout ça.
Mais
à un moment donné, il va trouver qu'on l'emmène trop loin. Et alors là, ils vont se brouiller. Alors là, je ne sais pas comment faire. Oui, et à ce moment-là, ils ne pourront pas continuer, les Israéliens, parce qu'ils ne peuvent faire toutes les guerres qu'ils font que parce qu'ils ont l'appui des Américains militaires.
Oui.
Pas seulement diplomatique, voilà. Oui. Et s'ils ne l'ont plus, ils ne pourront pas continuer.
L'isolement d'Israël est frappant. Il n'y a plus aucun pays. Il y a l'Argentine, je crois, des îles Fidji et les États-Unis qui les soutiennent. C'est invraisemblable. Bon, hélas, hélas, trois fois hélas, Philippe Saint-Robert, ça devient un feuilleton. Je sais que vous vouliez parler un peu de politique intérieure. Eh bien, nous allons nous retrouver mercredi prochain, Philippe Saint-Robert, pour votre petit feuilleton. Merci beaucoup d'avoir été si clair et net. Merci beaucoup et pardon d'avoir été si rapide, cher Xavier Driancourt. Un dernier mot peut-être si...
Non, je crois qu'on a fait le tour des sujets concernant aussi bien l'Algérie que le Proche-Orient. Et encore une fois, je crains vraiment ce renversement des choses. Vous le disiez vous-même, il n'y a aucun pays qui soutient Israël aujourd'hui. Hein.
Oui, oui.
Donc Israël va se retrouver isolé, et Israël va être assimilé à l'Occident, l'Occident barbare européen.
Oui. Il est temps que nous en sortions de l'Occident. Hein. Et d'ailleurs, nous n'en sommes pas, monsieur l'ambassadeur. C'est mon avis. Suite au prochain numéro de nos conversations. J'espère que vous accepterez de faire une nouvelle conversation
volontiers.
Sur TVL. J'ai toujours un plaisir, un très très grand plaisir à converser avec vous. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Merci Pierre Lourdes.
Juste pour dire quelque chose dans le sens de l'ambassadeur, on peut vraiment se poser la question de savoir si Israël ne va pas perdre son statut de victime pour être revêtu des habits du bourreau.
Sainte Pâque à tous, à mercredi prochain. D'ici là, faisons nos prières et invoquons le ciel. Domine Salvam Fac Galiam.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 1er avril 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.